Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Rouillet qui dirigera le ciné-concert The Oyster Princess. Et oui, la princesse huître, une huître assez originale sur laquelle on reviendra tout à l'heure puisque Martin Matalon s'en est inspiré pour justement proposer ce ciné-concert. Pierre Rouillet, c'est vous qui le dirigerez, bonjour.
Bonjour.
Pierre Rouillet, vous avez commencé comme instrumentiste, comme flûtiste plus exactement, et comme c'est écrit sur votre bio, vous collectionnez les prix internationaux. On y reviendra sur notamment comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot au milieu de tous ces musiciens, mais vous avez aussi très rapidement décidé de devenir faire de la direction, non seulement avec différents orchestres, mais aussi l'ensemble de E2M depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'instrument à cette direction ?
Alors, en fait, quand on raconte les choses, il y a toujours comme si c'était un défilé du temps bien linéaire, alors que ça s'est pas passé comme ça. Quand j'ai été dans mes études de musicien, de flûtiste, j'étais en même temps, j'ai fait des études de chef d'orchestre. Mmh. Je suis devenu pendant 10 ans flûte solo d'un ensemble qui s'appelle l'Orchestre de Chambre de Paris maintenant. Voilà, et donc à ce moment-là, quand on est soliste dans un orchestre, on n'a pas tellement le temps, ça dépend de l'engagement qu'on met dans son travail, mais on n'a pas tellement le temps de faire autre chose, donc j'ai complètement laissé tomber ça, et après je suis parti de cet orchestre, et peu à peu, les gens se sont souvenus que j'avais fait des études de chef d'orchestre, que j'étais chef d'orchestre, et ça a pris le dessus, voilà. Et alors juste une petite précision, c'est qu'en fait, quand on est chef d'orchestre, on n'est pas au-dessus du lot, c'est une responsabilité totalement différente, je veux dire, mais chaque musicien est vraiment aussi précieux, simplement... Le chef d'orchestre, c'est celui qui est au focus de la musique, c'est-à-dire celui qui gère d'abord la mise en place, les choses techniques comme ça, et qui propose une interprétation. Voilà, c'est comme un pianiste qui joue du piano, mais si le piano ne marche pas, le pianiste, ça peut être génial, ça ne marchera pas. Donc il faut que l'orchestre et que les musiciens de l'orchestre soient du même niveau musical que le chef d'orchestre.
Bien entendu, ce que je voulais dire par là, c'est que déjà en tant qu'instrumentiste, vous étiez remarqué par les prix que vous pouviez gagner. Qu'est-ce que ça nécessite comme qualité, justement, pour parmi tous ces musiciens-là, pour pouvoir devenir ne serait-ce que flûtiste soliste, c'est quand même pas rien.
Alors, dans une université, c'est assez amusant d'aborder ça. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, c'est constamment une chose de concours. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que pour réussir à avoir des diplômes, il faut passer des concours. Pour rentrer au Conservatoire de Paris, il faut passer un concours. Bon, nous, quand je suis rentré, on était 300 à se présenter. Il y avait 3 qui sont rentrés. Voilà. Et une fois qu'on a terminé ses études, en fait, on peut se contenter de faire ça, mais on peut aussi essayer de trouver une reconnaissance plus internationale. Et c'est l'objet des concours internationaux. Et donc, il y a des concours en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, etc. Moi, j'en ai passé quelques-uns et j'ai eu la chance de me consacrer suffisamment à ça pour. Être remarqué et gagner les prix.
Et en 2005, vous décidez de fonder cet ensemble de E2M avec notamment de l'accompagnement et aussi offrir des résidences pour pouvoir aussi porter des œuvres qui vous tenaient à cœur, j'imagine. Il y a d'autres raisons comme ça qui vous ont vite poussé à fonder votre propre ensemble ?
Alors en fait, je n'ai pas fondé mon propre ensemble, je suis désolé, je porte un peu la contradiction. C'est un des plus anciens ensembles de musique de création en France.
D'accord.
Voilà, même avant l'ensemble national qui s'appelle l'ensemble intercontemporain. Et il a été fondé par un compositeur qui s'appelle Paul Méphano. En 1974, voilà. Et en 2005, effectivement, après beaucoup d'aléas dans cet ensemble, la nécessité a été que la direction de cet ensemble soit personnalisée, donc on m'a proposé de m'occuper de cet ensemble, et je m'en suis chargé. Alors, indépendamment de mes goûts musicaux, ce qui est une chose et qui est effectivement déterminant dans la politique artistique, il y a aussi le fait que c'est un ensemble de création. Donc c'est-à-dire que c'est pas un ensemble qui fait la musique que Pierre Rouillet ou Jules Dupont a envie de faire, mais c'est un ensemble qui témoigne des jeunes compositeurs, évidemment français, ou français, pas français, mais qui travaillent dans les établissements d'enseignement français, genre, je sais pas quoi, les conservatoires régionaux, le CNSM de Paris, de Lyon, etc., et aussi donc d'autres compositeurs étrangers, jeunes, voilà. A priori, c'est pour faire connaître et pour mettre le pied à l'étrier de jeunes compositeurs, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est d'accompagner des compositeurs pendant un certain temps. Par exemple, Martin Matalon, là, qui est le compositeur de La Princesse aux Huîtres. Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, une fois qu'on a exprimé l'idée de se dire « je vais témoigner des compositeurs », après il faut voir dans quelle circonstances ça peut se produire, c'est-à-dire si simplement un concert c'est 5 compositeurs les uns après les autres sans qu'il y ait une idée de la forme du concert ou des conditions dans lesquelles les pièces sont faites, etc. Un ciné-concert ça se diffuse pas de la même manière qu'un opéra ou qu'une pièce instrumentale ou qu'un concerto, voilà, des choses comme ça. Donc tout ça c'est aussi, ça fait partie du travail d'un directeur artistique.
Vous travaillez tout autant sur du Jean-Sébastien Bach, du Beethoven ou sur des compositeurs plus contemporains comme ce sera le cas pour ce ciné-concert. Qu'est-ce que ça change de travailler avec non seulement des compositeurs vivants peut-être ?
Alors, Effectivement, ma formation, mon goût premier, ça a été d'aller de la musique baroque à la musique romantique, à la musique du XXe siècle, voilà, parce que c'est le répertoire que j'ai pratiqué, que j'ai connu, que j'ai travaillé, voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans la politique de The 2M, c'est par exemple faire des concerts dans lesquels, en même temps, il y a un compositeur contemporain, mais en même temps, on peut mettre du Carl-Philippe Emmanuel Bach ou du Rameau ou des choses comme ça, voilà. C'est intéressant parce que tout d'un coup, on voit que la musique contemporaine, c'est pas ex nihilo, mais il y a toujours un questionnement historique à un compositeur. Il ne prend pas une feuille blanche en disant « alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Une note, et puis celle d'après. » C'est quelqu'un qui a une réflexion, voilà, c'est comme quelqu'un qui écrit un livre, ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Donc c'est assez intéressant, et en plus ça permet aux auditeurs de voyager dans le temps, de voyager dans l'acoustique des pièces, et de faire des liaisons, des voyages qui sont plus intéressants. Dans les jeunes, je me souviens plus de la question d'après.
Oui, la différence entre un compositeur.
Ce qui est génial, c'est qu'on a répété là jusqu'à midi, enfin la troisième répétition pour les concerts de jeudi et de vendredi. Martin était là. Donc ça veut dire que même si moi j'ai travaillé la partition, on a travaillé avant de venir, voilà, il peut amener des choses parce que dans la musique qu'on joue, c'est de la musique écrite. Voilà, donc dans la musique écrite, il y a un certain nombre d'informations, mais il y a une part de choses à transmettre oralement, voilà, qui au fil du temps va être connu par beaucoup de musiciens, mais au départ c'est important que le compositeur dise pour les percussions telle maillotche, pour la trombone, je dis n'importe quoi, pour le trombone plutôt sourdine que telle sourdine, voilà, dans l'équilibre, des choses comme ça. Et donc ça c'est vraiment c'est une richesse. On rêverait que Mozart ou que Bach ou que les Pink Floyd soient là pour nous dire il faut jouer ça comme ça, il faut équilibrer ça comme ça, etc.
C'est amusant que vous fassiez référence au Pink Floyd parce que les premiers musiciens qui ont répondu à l'invitation de Pink Floyd le faisaient parfois un peu à contre-cœur. Ici, on sait que l'Orchestre Symphonique de Bretagne, ouvrir des horizons sur d'autres champs de la musique, c'est quelque chose d'important. Vous-même, vous pouvez produire des choses comme Meeting Lou Reed, qui est à peu près dans les mêmes époques. Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est important et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent, beaucoup d'orchestres se retrouvent avec cette ouverture-là ?
Alors, je pense que musicalement, indépendamment de la vie des orchestres ou des ensembles, musicalement, je pense qu'il est maintenant les musiciens, la génération de musiciens passe et les générations de compositeurs, mettons, ou de compositrices, hein, quand on dit compositeurs, on ne peut pas oublier qu'il y a des compositrices, sont des gens qui ont été nourris par Pink Floyd, par Lou Reed, par de la musique jazz, de la musique pop, de la musique, je sais pas, n'importe lesquelles, voilà. Et donc, dans leur démarche, à la fois dans ce qu'ils écrivent, dans la musique qu'ils écrivent, dans les instruments qu'ils sollicitent, et aussi dans leur souci du public. Souci de l'énergie, souci de l'électronique, souci de l'amplification du son, il y a forcément ça. Je veux dire, la musique, elle est irriguée par tout ça. J'ai traversé très très rapidement un tout petit peu là. Il y a plein de gens, il y a des grands, des petits, des blondes, des filles, des garçons. La musique, c'est pareil. Et je trouve que c'est se cantonner dans un style de musique, c'est trahir quelque chose. Et alors évidemment, il faut avoir des musiciens qui sont capable de jouer des musiques différentes. Alors je ne pense pas que, par exemple, donc je parle de 2M que je connais beaucoup mieux, je ne pense pas que 2M va faire de la musique pop, mais de les confronter avec un ensemble allemand qui s'appelle Zeitkratzer, qui fait de la musique un peu pop, etc. Ça a été une expérience vraiment super incroyable. Voilà, et de même, dans un autre style, de demander à des musiciens de jouer Jean-Sébastien Bach avec un style baroque, ce qui m'importe énormément, c'est aussi extrêmement intéressant. Parce que c'est se mettre dans une situation à la musique qui est comme si on la découvre, et non pas comme un vieux chewing-gum qu'on redécolle de dessous la table et qu'on remâche et qu'on recolle avant de partir pour le laisser au type qui va venir après. Voilà, donc à mon avis, l'intérêt de la musique, c'est cette position qu'on trouve. Voilà. Et je trouve que les musiciens de l'Orchestre de Bretagne sont vraiment... après, enlever un peu d'inquiétude qu'ils ont. Mais une fois que cette petite carapace est passée, ils sont extrêmement disponibles et ça marche très très bien. Il n'y a aucune raison que... Voilà, c'est plutôt des appréhensions personnelles, c'est-à-dire d'être remis en question alors qu'on a été reconnu comme un magnifique altiste ou un magnifique, je ne sais pas quoi, saxophoniste, voilà. Et tout d'un coup, on demande à cette personne-là de faire une chose un peu différente et c'est une espèce de déstabilisation, mais ça ne dure pas longtemps parce que ce qu'il faut, c'est trouver que chacun ait sa place et que trouver que l'important, c'est le discours musical et à quel objet musical ou artistique, en l'occurrence, ciné-concert, on se confronte.
Vous parlez d'expérience et aussi de disponibilité, celle du musicien et d'autant plus du chef d'orchestre est très importante puisque c'est beaucoup de voyages à travers le monde notamment. Ça, c'est plutôt un atout ou une contrainte de votre métier ?
C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est amusant d'aller découvrir d'autres musiciens, d'autres orchestres, d'autres modes de fonctionnement, etc. C'est vraiment intéressant. Après... travailler longtemps avec un ensemble ou avec un orchestre, ça permet vraiment de créer des complicités, de créer une grande confiance et de créer un style. Voilà, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que l'orchestre, c'est pas simplement une réunion de musiciens de très haut niveau, c'est quelque chose, il faut créer un style de cet orchestre, il faut qu'il y ait un son, il faut que comment ça fonctionne dans les répétitions, la communication, le calme, l'assurance, comment c'est possible que les musiciens se parlent entre eux, qu'ils aient confiance les uns avec les autres, qu'ils aient confiance avec le chef d'orchestre, qu'ils adhèrent à la politique artistique, ça se crée sur la distance. Mais par contre, découvrir des ensembles, etc., c'est vraiment passionnant, aller dans des pays. Alors, il faut pas croire que dans les pays, on a le temps de se balader beaucoup, mais par contre, c'est vraiment passionnant.
Le ciné-concert The Oyster Princess sera joué à l'Opéra de Rennes. Des opéras, il y en a beaucoup, et des salles, il y en a énormément dans le monde. Est-ce que vous avez un souvenir tout particulier d'un espace qui vous a particulièrement bluffé, que ce soit pour le son ou son architecture ?
La première chose qui me vient comme ça, c'est parce que il y a une homogénéité entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. C'est les salles au Japon. Voilà, qui sont tout souvent en bois avec une acoustique magnifique, très très douce, les orchestres sont extrêmement disponibles, voilà. Mais bon, c'est un objet. Mais maintenant, en France, il y a des très très belles salles. L'Opéra de Rennes est une belle salle. Hein. J'avais fait il y a quelques années un autre ciné-concert qui s'appelait Nosferatu, avec aussi l'OSB. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup beaucoup de salles qui sont très très belles.
Vous dites qu'un ciné-concert ne se produit et ne se diffuse pas forcément comme un autre type de spectacle. Est-ce que ça se dirige aussi différemment ?
Alors, il y a beaucoup de manières de diriger une musique de film. Soit c'est comme une partition, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'orchestre, un orchestre et puis une musique. Et donc, on joue directement en regardant le film. Voilà, donc il y a beaucoup de films qui se passent comme ça. C'est-à-dire que même, on adapte l'interprétation au plan du film. Donc ça, c'est complètement musical. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Il y a une chose où c'est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a quelques passages qui doivent tomber exactement avec le montage de cinéma, voilà, donc on les repère, et puis après le reste c'est un peu libre parce que c'est décoratif. Là en l'occurrence c'est pas du tout ça, en l'occurrence c'est tellement à l'image près que le chef d'orchestre, enfin en l'occurrence moi, ça peut être quelqu'un d'autre, moi, a un clic dans l'oreille qui fait qu'il n'y a aucune liberté de tempo. Il y a de la liberté pour travailler l'équilibre du son, pour travailler l'intonation, pour travailler la vitesse de je sais pas quoi, du son, des choses comme ça, la marqueterie sonore, mais au niveau de l'inscription dans le temps est 150% raide. Enfin, voilà, contrainte. Mais c'est passionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation à la musique complètement... Et ça me rappelle, avant de diriger des orchestres ou des opéras, j'ai beaucoup fait de musique de film, donc j'ai des souvenirs de ça, où ça se passait, alors on enregistrait, donc c'était plutôt à Paris, parce que je suis parisien, on enregistrait dans les studios à Paris, et puis après, les musiciens partaient, et il y avait toute la nuit, avec les gens qui mixaient la musique, le réalisateur et le monteur, c'est-à-dire qu'en fonction de tel plan, comme ça, il fallait raccourcir ou allonger, ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais à un moment donné, la fille, il y avait une histoire d'amour, la fille s'embarrasse, il y avait un baiser, toc, il y avait un truc de harpe à ce moment-là, enfin je sais pas quoi, voilà. Et donc c'est la même chose, mais en direct. Donc c'est une espèce de virtuosité de direction, parce qu'il faut être en même temps contraint, mais libre dans l'interprétation et laisser les gens respirer, et la musique respirer et s'exprimer. Et en plus, là, il y a l'électronique qui fait qu'il y a aussi une gestion du son qui échappe un peu. La globalité du son, c'est pas vraiment le chef d'orchestre qu'il a. Le chef d'orchestre, il est, dans cette musique-là, il est responsable de ce qui se passe avec les instruments.
Est-ce qu'il faut être un petit peu cinéphile, ou en tout cas, est-ce que vous l'êtes, vous, Pierre Rouillet, pour faire ce genre de ciné-concert ?
Je suis pas extrêmement cinéphile, j'avoue, voilà, mais j'aime bien découvrir des choses, et une fois que j'ai des découvertes, de creuser autour de ça, voilà. Donc Lubitsch, évidemment, je connaissais Lubitsch, The Chopper on the Corner, ou je sais pas quoi, voilà, La Folle Ingénue, mais ce film-là, j'avoue que je connaissais pas, et j'ai regardé, c'est un film incroyable, vraiment, c'est vraiment complètement... Donc c'est la période de Lubitsch à Berlin, de 1919, je crois, et c'est vraiment un truc absolument hallucinant, c'est complètement fou, quoi, c'est super drôle, mais toujours avec une espèce d'élégance, danse, dans des choses comme ça, qui est vraiment Loubitchienne, je sais pas comment on peut dire. Voilà.
À découvrir demain et après-demain à l'Opéra, proposé par l'Orchestre Symphonique de Bretagne, donc mis en musique, on l'a dit, par Martin Matalon. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce compositeur, peut-être par rapport à d'autres, par rapport à son style, sa couleur ?
Alors Martin Matalon, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement sur la... pas la virtuosité dans le sens forcément aller vite avec les notes, mais sur le maillage des choses. C'est extrêmement subtil, c'est toujours très coloré, c'est ça pulse. Voilà, souvent de la musique contemporaine on associe ça à une chose un peu molle, ou je sais pas, comme ça, alors que là c'est vraiment toujours il est argentin, donc il a une espèce de chose comme ça qui pulse tout le temps et qui est en même temps très ironique, très décalé, un peu un regard un peu comme ça à plat, mais une science de l'écriture d'orchestre vraiment très très grande. Et c'est quelqu'un qui a des notions de couleur, de mélange de sons, des choses comme ça. Il est fasciné par la percussion, donc il y a beaucoup, beaucoup de percussions. Mais là, en l'occurrence, extrêmement virtuose. Voilà, donc c'est vraiment... cette partition-là et d'autres partitions qu'on avait fait, par exemple, avec 2E2M, c'est un compositeur de très, très haut niveau, très haut vol.
Vous composez vous-même, Pierre Bouillet ?
Pas du tout.
Comment vous expliquez ça ?
Parce que je suis nul. j'ai commis 2-3 musiques de scène, de théâtre, mais enfin, j'en suis pas fier. C'était à la manière d'eux. Non, parce que c'est pas du tout mon univers. Mon univers, c'est l'interprétation. C'est d'essayer de comprendre ce que veut le compositeur, par exemple, ou la compositrice. Et je pense avoir les moyens de transmettre ça aux musiciens, parce que je connais très très bien les musiciens, les instruments, comment fonctionnent les musiciens. Gérer les choses, c'est très concret la musique, c'est très concret. Et ce que j'aime dans le chef d'orchestre, c'est l'équilibre entre une chose très intellectuelle, c'est-à-dire, j'ai la partition à la maison, que je connais absolument pas, donc je rentre comme si j'allais parler serbe en Serbie, alors que j'y suis jamais allé, voilà, donc c'est comme un univers totalement comme ça, donc je fais tous les pas qu'il faut pour vraiment comprendre ce dont il s'agit. Une fois que j'ai compris ça, je parle avec le compositeur en disant que, voilà, que ce que j'ai vu, comment c'est fait, là il y a telle faute ou telle faute, parce que lui... Moi, j'ai pas de relation affective avec la partition. Voilà, tandis que lui, c'est comme il l'a déjà écrite. En fait, il la lit moins bien que moi, ou elle la lit moins bien que moi. Mais c'est une chance de chacun ses deux points de vue. Et après, avec les musiciens, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est des êtres humains devant et qu'il faut arriver à faire passer une idée d'interprétation avec des gens qui ont des corps différents, des psychologies différentes, des âges différents, évidemment des instruments différents, donc des problématiques différentes. Et ça, moi, j'adore ça. C'est passionnant. Je trouve que c'est un échange humain fantastique. Et quand ça fonctionne, tout d'un coup, il y a une espèce de... Ça fleurit, voilà.
Ah, ça fleurit. Vous m'avez embarqué. Pierre Bouillet, est-ce que vous avez une œuvre particulière, une sorte de fantasme que vous n'avez malheureusement jamais dirigé, alors que vous en avez toujours rêvé ?
Une symphonie de malheur ? Voilà. La deuxième symphonie de malheur, je pense.
Pourquoi est-ce qu'elle est si forte et puissante dans votre
imaginaire ? Parce que d'abord, c'est une symphonie où il y a énormément de musiciens, donc ça c'est toujours un fantasme, voilà. Mais c'est pas la plus... En fait, un chef d'orchestre, c'est pas quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui écrit, pour moi, il y a des gens qui font gros numéros, mais c'est pourquoi pas. D'ailleurs, dans le film, il y a un chef d'orchestre qui fait un numéro extraordinaire, il faut venir voir, c'est ça. Moi, j'ai fait des photos sur j'ai capté des images sur mon écran, parce que c'est très très drôle. Enfin bon, c'est une caricature, mais c'est très drôle. Alors, c'est plutôt, pour moi, c'est diamantaire, c'est comment, avec le minimum de l'économie des gestes et des regards et des informations, on arrive à ce que tout le monde comprenne quelque chose. Et donc Malheur, c'est une énorme symphonie comme ça, et ce que j'aime bien dans Malheur, c'est d'abord que c'est une chose de chef d'orchestre, puis il était chef d'orchestre, et donc on sent, quoi, je veux dire, c'est fait pour ça, c'est fait pour quelqu'un le dirige. Et en plus, c'est tout ce que j'aime dans la musique. Enfin, il y a d'autres choses, mais j'ai cité une pièce au hasard. C'est parce que des fois, c'est extrêmement symphonique, puis des fois, il y a deux instruments très très modestes, je sais pas quoi, une mandoline et un tuba qui jouent comme ça, et puis après, ça redevient très fort, etc. Et c'est cette diversité des choses que j'adore. Voilà, comment arriver à faire rentrer le grand et le petit dans un même geste, ou le high level et low level dans un même discours artistique.
Pierre Bouillet, merci beaucoup. On vous retrouve demain et après-demain pour The Oyster Princess. Merci.
Merci beaucoup. Mmh.